Philippe est secrétaire général du service de mission au pluriel et d'entraide depuis exactement une année, 1er octobre, m'a-t-il dit. Donc je crois que c'est bien qu'on puisse l'accueillir aujourd'hui, entendre aussi ce qu'il a à nous dire. C'est une des instances qu'on soutient au travers de l'offrande que nous ferons après ce message. Donc ça fait largement sens de t'accueillir, sois le bienvenu. Je vais prier pour que tu sois à l'aise. Merci de nous permettre d'entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, au travers de Philippe ce matin. On veut l'accueillir en ton nom. J'invoque sur lui toute la liberté que tu peux lui donner pour nous transmettre ce qui vient de toi ce matin. Nous puissions être attentifs et être fortifiés au travers de ces paroles. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci. Merci de cette possibilité de partager ce moment de culte avec vous qui m'a fait du bien. Merci beaucoup. Je reçois, j'en suis béni et reconnaissant au Seigneur. Merci pour la possibilité de partager ce temps de présentation de notre travail et puis quelques pensées d'une exhortation que j'aimerais vous laisser, mais qui m'interpelle déjà personnellement tout à l'heure. Bon, quelques mots de présentation pour que je ne sois pas trop un inconnu. Marié à Françoise, nous avons 4 enfants qui s'échelonnent de 23 à 8 ans. Toujours beaucoup d'énergie pour le dernier, donc ça nous maintient. On est installé à la vallée de Joux, d'où mon épouse est originaire depuis 12 ans, après avoir pas mal vécu de déplacements pour différentes raisons, travail ou ministère. Mon petit accent traduit mon origine du sud de la France et Marseille, terre de mission, si vous suivez l'actualité. Ouais. J'ai toujours mes parents, ma famille, j'ai beaucoup de plaisir à y retourner, c'est un grand privilège que de les avoir et de pouvoir bénéficier de ces temps-là. Et le Seigneur nous a bénis d'un parcours assez diversifié, dans des lieux, des pays où on a vécu, ou différentes activités, voilà, ingénieur de formation à l'origine, où j'ai beaucoup voyagé en Afrique, on s'est rencontrés au Burkina avec mon épouse. Et puis quelques projets d'aide au développement au Togo, et puis l'enseignement aussi dans des écoles chrétiennes privées, je revois certains visages connus. Le pastorat aussi pendant 11 ans à la vallée de Joux, et puis j'étais au comité du service de mission et d'entraide en tant que bénévole depuis 2 ans, avant de rejoindre l'équipe des salariés depuis 1 an jour pour jour. Et c'est pour moi un grand sujet de reconnaissance au Seigneur que de pouvoir continuer à le servir de cette manière-là. Voilà, que ce que je suis, que ce qu'il m'a donné, je puisse le lui rendre de cette manière-là. En tout cas, c'est un grand privilège. Je vais vous poser une question qui n'est pas une question piège, mais qui nous aide, nous, au SME, à savoir un peu comment communiquer, comment partager l'information. Donc, n'ayez pas peur, mais je pose justement la question, qui connaît suffisamment le service de mission et d'entraide ? Pas seulement l'intitulé, mais pour dire peut-être quelques mots de présentation, d'activité ou autre. Je ne vais pas citer, je ne vais pas prendre de nom ou autre, mais qui connaît suffisamment pour voilà, lever la main ? Merci, voilà, ça m'aide à voir qu'on a encore du travail de communication. Hein ? Alors, voilà, en quelques mots. Et je veux être précautionneux par rapport à la gestion du temps. Service de mission et d'entraide, auparavant c'était service missionnaire évangélique, avec une portée peut-être plus orientée vers la mission, je vais en parler, voilà. Mais pour moi ce que signifie ce mot, alors je vais vous balancer un truc à l'écran, il y a beaucoup de choses. Ce que signifie pour moi ce mot-là. Je vous laisse quelques secondes pour digérer. Merci. En en couleur noire. Ce sont des lieux, sur lesquels le Seigneur nous appelle à être missionnaires, à être mandatés, envoyés par lui auprès des personnes qu'il nous donne de côtoyer. Donc ces lieux sont très diversifiés, déjà dans ma maison, auprès de mon épouse, auprès de mon conjoint, auprès de mes enfants, auprès de ma famille, sur le palier de l'appartement, ici, tout proche, dans le village, en promenade, lorsque je vais croiser quelqu'un peut-être, sur mon lieu de vacances. Peut-être vous dites, oh là, attends, mais les vacances c'est pour moi, mais non, hein, on est disciples de Christ constamment. Au travail, sur le lieu de notre exercice de l'activité professionnelle, et c'est un champ de mission, c'est quelquefois pas facile du tout, de propager cette bonne odeur du Christ, hein, ce parfum comme une lettre ouverte en Europe, en Suisse ou sur tous les continents. Moi j'aime bien élargir l'espace. Oui, c'est sur ces lieux-là. En orange ou brun, c'est comment, de quelle manière, de quelle façon, par quel biais de notre activité professionnelle. Très diversifié. Vous voyez qu'il y a tout. Il y a tout. On peut servir le Seigneur de temps et de temps de manière. En vert, ce sont les personnes auprès desquelles le Seigneur nous appelle à être témoins, à être ses disciples vivants, à être missionnaires. Ces personnes sont très diversifiées, conjoints, membres de famille, voisins, amis, collègues au boulot, j'en parlais, des migrants qui se sont installés tout proches dans le bâtiment à côté, nos autorités politiques, le syndic ou autres, veuves, pauvres, orphelins, jusque beaucoup plus loin, tout peuple, toute tribu, toute ethnie, toute nation, c'est auprès de ceux-là. Oui. Et puis en bleu, ce sont peut-être des verbes, des actions, des activités qui traduisent ce que peut signifier ce mot « mission ». C'est déjà s'intéresser, être curieux par rapport à cette famille qui vient de s'installer, c'est inviter, c'est donner, c'est voyager, aller visiter beaucoup plus loin, écrire un mot d'encouragement, envoyer, diffuser, partager, prier ou intercéder. Vous voyez que ça nous concerne tous quelque part, hein, qui que nous soyons, où que nous soyons. Mais voilà, en quelques mots. Donc, n'importe où, auprès de mon prochain, tout proche là, ou beaucoup plus loin, avec ce que je suis, avec ce que le Seigneur a fait de moi, avec mes compétences, mon expérience, ma profession, mon temps, mes capacités, mes forces. Et quelque part, un verbe qui pourrait traduire cela, ben c'est aimer. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, nous commande. Amen. C'était pas très fort le amen. Peut-être vous avez un peu peur que le Seigneur vous titille au travers de ce que je vais vous partager. Le service de mission et d'entraide a un statut associatif, mais d'une organisation non gouvernementale. Nous sommes reconnus par les pouvoirs publics, d'utilité publique. C'est une reconnaissance sur laquelle nous voulons continuer à travailler, aussi sur la bonne manière de gérer les dons qui nous sont confiés. Et c'est un travail sérieux, on veut le poursuivre, de ce bon témoignage. Nous sommes mandatés par notre fédération, par les églises donc de la fédération, pour des projets, des œuvres, des activités en lien avec la coopération internationale, les projets d'aide au développement, l'entraide. Et c'est très, très, très ouvert en termes de géographie, en termes d'activité. Je fais une parenthèse qui est assez importante. C'est que la fédération, donc l'ensemble des 50 églises à peu près, nous donne le mandat pour des activités liées au développement, à l'entraide, à la coopération internationale. Et nous voulons bien gérer, en particulier l'argent public qui nous est confié. Mais la fédération, elle, a gardé la gestion des activités missionnaires dans le sens d'implantation d'églises, de formation de disciples, d'enseignement, de propagation de l'évangile de manière directe. Ce qui pour nous, au SME, n'est pas toujours possible par rapport au fonds public dont on peut disposer. Et c'est pour ça que ces deux entités ont été séparées. Nous disposons d'un site internet, je vous invite à le consulter, mais vous recevez aussi régulièrement les brochures, des news sous format papier, mais aussi des brèves sous format électronique, avec des nouvelles un peu plus personnelles de nos envoyés, des sujets de prière, des sujets d'intercession, des sujets de reconnaissance. Notre vision, elle est celle-ci, c'est servir, hein, service, voilà, se mettre au service en rejoignant les populations les plus défavorisées, et les besoins sont nombreux, hein, dans de multiples régions du monde, dans une approche qui englobe toute la personne. Ses besoins physiques, ses besoins d'éducation, ses besoins spirituels, on veut voir tout cela, hein, dans la personne, et ça sans distinction de quoi que ce soit. On met en avant notre engagement sur les valeurs de la foi chrétienne, ces valeurs que l'on veut faire connaître. Nous sommes, dans le jargon, une organisation basée sur la foi, et on veut mettre en avant l'amour pour le prochain, l'intégrité, l'honnêteté, le pardon, le droit des plus faibles, la lutte contre les abus, qui sont des valeurs de la parole de Dieu. Nous travaillons beaucoup, c'est ainsi depuis l'historique, avec des partenaires locaux. Nous n'avons pas d'action directe SME sur les terrains, mais nous travaillons avec des partenaires, ce qui nous pousse, nous oblige à nouer des liens et à entretenir ce lien avec nos partenaires au Laos, au Liban, au Népal, etc. Je vais en parler. Et puis, on a à cœur d'inviter, de vous inviter, de vous challenger peut-être à y aller, à ce que vous puissiez être accompagné par le SME ou par une autre organisation pour goûter à cette expérience-là qui est tellement enrichissante. On est une petite équipe de 5 personnes à temps partiel, hein, un équivalent de 2,6. Alors, on essaye de bien le remplir, mais avec sagesse. Moi-même, qui ai repris la direction, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Sylvie, que vous connaissez sans doute. Et je glisse un petit sujet de prière pour ceux qui la connaissent, c'est qu'elle a appris cette nuit le décès de son papa. C'était un peu attendu dans la situation de santé qu'il vivait ces derniers mois, et c'est considéré comme un soulagement, une libération, mais c'est toujours quelque chose. Alors merci pour vos pensées, vos prières pour elle. Michael, notre chargé de programme, qui est dans l'avion ce matin pour le Laos, et qui a passé ses dernières semaines à travailler sur un gros, gros document qui concerne 2025-2028. Pas facile, vous imaginez le défi, hein, de se projeter dans de tels enjeux. Frédéric, notre comptable, Annelise, notre secrétaire. Je vous laisse aussi les quelques noms des membres du conseil d'administration pour lesquels on est reconnaissant, vous connaissez certains. Dans une période aujourd'hui où on a du mal à trouver des bénévoles, on est pourvu d'une bonne équipe et on est extrêmement reconnaissant pour cela. Autour de nous, une assemblée générale dont certains délégués au milieu de nous, je crois. Et merci beaucoup, merci de ce que votre Église est représentée à nos assemblées générales pour amener ce vote, voilà, dans les décisions à prendre, dans les approbations des choix, des orientations. Merci beaucoup. Trois domaines, trois thématiques principale, l'éducation de base, scolarité, école, la formation professionnelle avec différents centres orientés, maçonnerie, électricité, mécanique ou d'autres choses, et puis le renforcement des compétences des professionnels qui sont déjà formés, en particulier au Laos par exemple ou au Népal. Nos pays d'intervention à l'heure actuelle, parce que ça peut varier, je ne sais pas vous, mais quand je vois une carte, moi, ça me donne des ailes, j'ai envie de voyager, j'ai envie de rejoindre les gens, j'ai envie de bouger. Mais actuellement, le Tchad, le Burkina Faso, et merci pour vos prières, ce pays est un peu particulièrement touché, là, le Burkina, ces derniers jours encore avec une tentative de putsch. Vous voyez combien les choses sont instables au niveau politique, social, et puis vous savez, la pression des djihadistes sur une grande partie de ce pays, le Sénégal et le Libéria. Sur la zone Asie, Le Liban, Beyrouth, avec le centre éducatif Tahadi, et puis Népal, Bangladesh, Birmanie, ou Myanmar et Laos. Merci Seigneur pour ces possibilités de rejoindre ces personnes-là. Qui partira en Afghanistan? Qui partira en Iran? Au Yémen? Rejoindre ces populations éprouvées. Nos projets sur la période 21-24, on travaille par tranches de plusieurs années, ils se découlent sur les trois thématiques, je ne rentre pas dans les détails, je ne veux pas prendre trop de temps, l'information elle est disponible, ça montre un peu la diversité des sujets, des thématiques, et surtout nos envoyés, les personnes, les ressources avec lesquelles on travaille, mais ces ressources, elles diminuent, alors on embauche. Des jeunes, des couples, des jeunes retraités, des professionnels, les besoins sont grands. Vous connaissez ces noms, j'ai laissé Arnold et Monica Probst ainsi que la famille Germain, même s'ils ont bougé depuis un an, je les ai laissés comme sujet de prière parce qu'ils sont toujours dans une phase soit de retour en Suisse, avec tous les défis que ça représente, ou soit de changement d'affectation au Tchad, avec la mission évangélique au Tchad pour les Germains. Aussi Aimé et Audric Delessert, actuellement au Cambodge, en Australie, pour d'autres réflexions par rapport à la suite de leur ministère. Mais merci, merci, puisqu'ils sont, quelque part le bras au bout sur le terrain, hein, par lequel le témoignage de l'amour de Dieu, de l'Évangile, des valeurs de l'Évangile sont transmises. Alors merci pour vos prières, pour votre soutien. Bon, ça me manque un peu, eux ils sont là-bas. Nous on est souvent au siège, dans les papiers, dans les chiffres, dans les plannings, dans les documents, dans les budgets. Mais voilà, il y a besoin de ça aussi. Hein. Ce qu'on peut offrir, le SME, ben c'est vrai, c'est une belle expérience, puisque à l'origine, même si ça ne portait pas ce nom-là, mais les racines du SME, elles remontent au début, à fin des années 1800 même, début des années 1900, avec des champs comme la Roumanie, le Laos, les premiers envoyés, avec des histoires remarquables, des témoignages d'un engagement extraordinaire, au péril de leur vie, quelquefois. Donc une expérience qui s'est accumulée, et qui se traduit avec un accompagnement des personnes qui, au milieu de vous, pourraient être intéressées pour une expérience de servir à l'étranger. Et je suis publiquement reconnaissant à nos commissions géographiques qui ont ce cœur-là, la commission Afrique et Moyen-Orient, la commission Asie, la commission Europe également, d'accueillir des gens intéressés, de les écouter, de les accompagner dans leurs préparatifs, dans leurs réflexions, dans les sujets de prière, de continuer à les accompagner par la prière au loin et même au retour. On est très très reconnaissant pour ces gens qui sont d'un grand cœur pour prendre soin des envoyés. Le suivi de projets sur le terrain, on a, c'est vrai, quelques expertises à faire valoir et on est reconnaissant au Seigneur pour cela. Et un réseau assez étendu qui nous permet, si jamais vous êtes appelé par le Seigneur en Afghanistan, on pourra vous dire, on n'a rien sur place. Mais par contre, on travaille en partenariat avec telle ou telle organisation et puis on va vous accompagner dans ce sens-là. Voilà. Et c'est là la richesse d'un réseau de contacts pour couvrir des besoins qui sont tellement grands. Alors comment est-ce qu'on fonctionne avec, on est reconnaissant avec les ressources de la fédération, et c'est vrai que lorsque chaque église locale donne à la fédération, eh bien un pourcentage, 7-8% environ, qui revient au service de mission et d'entraide pour la couverture des aspects administratifs, et on est très reconnaissant. Sur certains projets, la fédération, la FLP qui nous soutient aussi, et puis d'autres fondations, d'autres soutiens institutionnels, de l'argent public, de vos impôts, de nos impôts, donc, et pour lesquels on est reconnaissant. Et on veut être précautionneux, on veut être sage, on veut être d'un bon témoignage dans la gestion de tout cela. Mais, ce qui est marqué en gros, en gras, c'est vous. c'est votre soutien, c'est votre cœur, c'est vos prières, c'est votre intercession. Si on reçoit un grand soutien, allez, 5 000 francs, 30 000 francs, d'une fondation de gens qui ont beaucoup de moyens, ben, c'est bien, on en est bénéficiaire, on est reconnaissant. Mais quelque part, c'est un don qui est neutre. Mais s'il y en a 4, 5, 6, 10, 50 qui donnent 20 francs, en sachant ce que peut représenter 20 francs pour quelques-uns d'entre vous, mais dans un peu comme les deux pites de la veuve, mais dans un esprit bénissant, ah, Seigneur, bénis cette œuvre là-bas, soutiens, continue ton œuvre, ça a un prix inestimable. Et le Seigneur se réjouit de cela. Alors, merci pour votre soutien, pour vos prières, pour vos encouragements. Amen. Je m'arrête là sur la présentation. Voilà. Et je vous invite à la prière. Zoé, est-ce que tu peux me rendre ce petit service ? Voilà. Elle est là, Zoé. Ouais. Je vais vous inviter à la prière. On passe l'aspect pratique, on est dans la continuité, mais on veut se recentrer sur la parole de Dieu. On veut se souvenir, Seigneur, que c'est un privilège de nous rassembler librement. Des millions de nos frères et sœurs dans bien des régions du monde aspireraient tellement à pouvoir se déplacer librement, avoir une voiture qui fonctionne, des routes qui soient sûres, du carburant disponible, un lieu accueillant, vivre la chaleur, la joie de la communion fraternelle, la bénédiction d'être ensemble, ouvrir ta parole dans sa propre langue et ne rien craindre de fanatiques, de radicaux par rapport au déroulement du culte. Seigneur, c'est un grand privilège. On veut en être conscient. Et on ouvre nos cœurs, on ouvre notre entendement, on ouvre notre esprit à l'action de ton esprit. Veuille, s'il te plaît, Seigneur, traduire, alors que l'on lira ces passages, traduis-les en une application pratique pour chacune et chacun d'entre nous ici présents. Merci pour le renouveau de force, l'encouragement, le soutien, la vision renouvelée, ou peut-être le défi, le challenge, l'appel que tu lances maintenant. Alléluia. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Amen. Amen. J'avais à cœur ce matin. Merci Zoé. J'avais à cœur ce matin de nous encourager parce que c'est quelque chose qui m'interpelle et je vous partage cette interpellation. Une exhortation à tenter de mieux considérer ce que représente, si tu arrives un peu plus haut, Zoé, au pied du micro. Voilà, merci. À mieux considérer la perspective d'éternité. Ou si vous voulez, mon sous-titre, en quoi notre vue, en quoi notre considération, en quoi une meilleure appréhension de l'éternité ou des choses de l'éternité, des œuvres qui perdurent, qui ont une portée éternelle, en quoi cela influe ou est appelé à influer notre vie présente. Et merci Seigneur pour cet encouragement de 1 Corinthiens 13, 16, verset 13, qui rejoint vigilance, être veillant, être ferme, être courageux, audacieux, parce que ça m'a encouragé dans ce sens-là. Merci aussi à l'équipe de louanges pour les chants qui nous ont rappelé l'œuvre de la croix que le Seigneur Jésus a faite pour nous, mais aussi la croix à laquelle on est appelé. Voilà, cette ligne, cette corde est une piètre illustration du temps qui passe. C'est la chronologie, vous voyez, le temps qui passe entre l'éternité complètement à gauche, en amont, mais vous voyez que c'est une vue de l'esprit, puisqu'il y a un début à ma corde, et l'éternité qui se poursuit, mais il y a une fin à ma corde qui est attachée, mais vous imaginez que ça se poursuit encore jusque dans le champ derrière, et beaucoup plus loin, d'accord ? Et que c'est venu de beaucoup plus loin avant. Et ça, c'est le temps qui passe. Sur la longueur de cette corde à peu près, considérant l'histoire, elle est 5000 ans à peu près. 5000 ans, ben, on est en 2023, le repère, hein, la naissance de Jésus, et puis peut-être 3000 ans avant. Voilà. Ça, c'est à peu près 5000 ans. Alors, le 22 février 1972, Philippe arrive. Et à une certaine date, partira. En tout cas, je quitterai cette terre-là. Sur l'échelle de l'éternité, si je peux me souhaiter 80 ans, ça représentera quelques petits centimètres. C'est le message de la Bible. Notre âme est éternelle et le cœur de notre Créateur, de notre Dieu, c'est que nous puissions jouir, bénéficier de la joie, de la paix, de la félicité, de sa présence éternelle, où les tourments éternels. Et je pourrais distinguer deux cordes, en fait, faire deux chemins, parce que c'est vrai que c'est le message de la Bible. Il y a aussi le feu, la souffrance, la séparation, les tourments éternels, la séparation d'avec Dieu. C'est le message de la parole de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous, en tenant compte de cet arrière-plan, trois sujets, ce n'est pas exhaustif, mais trois points pour lesquels j'aimerais que nous ayons une meilleure considération de l'éternité. Mon premier point, je ne passe pas dessus, c'est le rappel de ce que Jésus a fait pour nous, et ça a été l'objet des chants, de ce que nous avons vécu au travers de la scène. La dernière image, c'est Jésus qui, avant de partir, mandate ses disciples, à poursuivre son œuvre, à faire parler de lui, à manifester les choses du royaume de Dieu et qui ont une portée éternelle. C'est le message, le commandement qu'il nous a laissé. Mon premier point, c'est en quoi notre vue, notre considération de l'éternité peut nous aider à supporter le présent, l'affliction, la peine, la douleur peut-être, l'épreuve présente. Mon deuxième point, si on est peut-être moins concerné par le premier, c'est d'avoir une meilleure vue, une meilleure considération de l'éternité pour mieux se préparer, pour mieux considérer, pour mieux être armé par rapport au temps à venir, qui me semble difficile. Mon troisième point sur lequel je passerai peut-être un peu plus de temps, c'est avoir une perspective d'éternité, avoir une meilleure compréhension, une meilleure vue au jour le jour, hein, de l'éternité et des choses qui durent pour que notre vie soit bien remplie, qu'elle soit utile, qu'elle porte des fruits d'éternité à la gloire de Dieu. Voilà les trois points dans lesquels je vais vous inviter. Je ne vous connais pas, je ne sais pas ce dont est fait votre histoire ou votre présent, mais la vie peut être bien, bien difficile. La maladie, le handicap, la séparation d'un être cher, l'injustice, l'épreuve, je ne sais pas, voire la persécution peut-être, ça peut être bien douloureux et dur à tenir. Dans lesquels Jésus nous accompagne, certes, mais dur, difficile. Alors, je fais une parenthèse, la souffrance, et avec la souffrance, on fait le lien avec la foi, avec la prière pour les malades, la guérison ou la non-guérison, etc. Je ne rentre pas sur un sujet qui est très sensible et qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'écoute, et qui serait l'objet de toute une prédication, de tout un séminaire même. Mais l'apôtre Paul nous laisse cet encouragement à vous qui peut-être Vous dites, mais c'est tellement difficile, je ne vois pas le bout, jusqu'à quand, Seigneur, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Alors rappelez-vous que vous êtes là. Mais l'intention de Dieu le Père, l'intention de votre Créateur, c'est tout ça, c'est tout le reste. Alors soyez tenaces, soyez persévérants, soyez dans l'espérance, hein, de la joie, du secours, de la consolation à venir. Paul dira, j'estime, je considère qu'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de commune mesure possible entre les souffrances du temps présent, et c'est quelqu'un qui parle et qui sait ce qui, hein, en termes de souffrance, la faim, la soif, la nudité, la prison, les menaces, les coups, l'opposition, etc. Quand l'apôtre Paul parle de souffrance, mais il dit, mais ce que je vis ou ce que l'on peut vivre des souffrances du temps présent, ça n'a rien à voir avec la gloire à venir, avec la félicité, avec la liberté, avec la paix, avec la consolation de l'éternité et de la présence avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne vous connais pas, mais si jamais c'était le cas, eh bien que cette meilleure prise en considération, que cette conviction, cette certitude de passer l'éternité avec votre Sauveur et Seigneur vous donne d'être persévérant, tenace, patient dans l'affliction, dans l'épreuve. Un homme a connu une vie bien difficile. Vous savez, cet enseignement pour la plupart de Jésus à propos de cet homme riche qui chaque jour mène joyeuse, brillante vie et qui profite de tout ce qu'il a, et Lazare, ce pauvre Lazare. Et vous noterez les adjectifs ou les descriptifs qui sont liés au personnage de Lazare, pauvre, couché à sa porte, malade, couvert d'ulcères, affamé, puisque même désireux de se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. Le pauvre meurt, transporté dans le sein d'Abraham, le riche aussi enseveli. Dans le séjour des morts, le riche lève les yeux, tandis qu'il est en proie au tourment éternel, il reconnaît Abraham et Lazare de loin, et leur dit, Père Abraham, viens, viens me soulager, envoie Lazare pour qu'il me trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Avant d'aller plus loin, on pourrait dire, Seigneur, comment ça se fait que tu permettes à Lazare de vivre une vie aussi difficile? Et cet exemple-là, il y en a des millions qui le vivent encore aujourd'hui, hein, dans le monde. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi est-ce que tu ne les soulages pas, Seigneur? Alors rappelons-nous que c'est entre les deux traits rouges, mais qu'il y a tout le reste dans la perspective d'éternité. Et Abraham répond au riche, mais mon enfant, on voit là quand même tout l'amour, toute la considération, mais aussi la tristesse, la peine. Souviens-toi, tu avais tes biens, tu as reçu tes biens et tu as fait tes choix. Tu as considéré que toute ta vie, elle se vivait là entre les deux traits rouges et puis tu en as bénéficié. Alors que Lazare, lui, il a eu des maux, une vie de souffrance, la maladie, la pauvreté, la précarité, le désespoir pendant toute sa vie. Mais maintenant, il est là. Et il jouit de la félicité, de la joie, de la paix, de la consolation. Et toi, tu souffres, ben, tu subis les conséquences de cette absence de considération par rapport aux choses de l'éternité. Je ne sais pas si vous n'êtes pas quelquefois interpellé par ces fameux textes. Moi, oui, en tout cas. Psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Un peu plus loin, verset 17 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le malheur atteint souvent le juste, le malheur, oui, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et moi, je dis au Seigneur, oh, et Lazare, Seigneur, et Lazare, toute sa vie, il a vécu la souffrance, les maux, la difficulté, l'épreuve. Et ces versets Ce n'est pas une explication très grande en théologie, loin de moi cette idée-là, mais ces versets, ils sont à relativiser par rapport à l'éternité. Parce que finalement, quel est le plus grand malheur qu'il puisse nous arriver ? Est-ce que c'est un malheur ? Est-ce que ce sont des mots MAUX qui touchent notre santé, notre corps, notre travail, la perte d'un travail, ou la provision financière, ou nos biens matériels, ou tout ce qu'il y a là ? Est-ce que c'est là le plus grand des malheurs qui puissent nous arriver ? Ou est-ce que ce serait de manquer la voie de l'éternité, de la présence éternelle avec notre Dieu ? Et c'est ça, lui, qu'il voit. Son cœur, son intention, sa pensée, c'est de se réjouir de vivre l'éternité avec nous. Ce n'est pas tellement notre bien-être entre les deux traits rouges. C'est dur ce que je dis, peut-être. Mais ça nous aide à relativiser. Vous connaissez cette... cette histoire des pas sur le sable, cet homme qui a été éprouvé qui dira au Seigneur, mais tu m'as toujours assuré de marcher à mes côtés, de te voir à côté de moi si j'acceptais de me joindre à toi, d'être fidèle. Et je me suis aperçu, Seigneur, qu'aux périodes les plus dures de ma vie, il n'y avait plus qu'une empreinte, tu étais où ? Et le Seigneur de dire, mais je t'ai porté. Ça ne veut pas dire qu'on est soustrait aux difficultés, aux épreuves, mais que le Seigneur nous y accompagne pour qu'on puisse les traverser. Mon deuxième point, si peut-être on est moins touché par le premier, c'est en tout cas d'avoir une meilleure considération, une meilleure appréhension des choses de l'éternité à propos de ce qui est devant nous, à propos de ce qui est à venir. Des temps difficiles, je pense, et quand on lit les différents passages de la parole de Dieu à propos des temps de la fin, et quand on voit l'actualité, je pense qu'on est interpellé. J'ai mis quelques images. On peut être dans la crainte, dans la peur, l'anxiété, les difficultés par rapport à la crise économique, à la crise climatique, écologique, la crise des valeurs morales, la crise géopolitique, avec les guerres et les bruits de guerre de plus en plus nombreux, la crise énergétique dans certains pays, crise politique et sociale, tensions religieuses, opposition, persécution. Oui, ça risque d'être difficile. À propos de persécution, vous reconnaissez l'index de portes ouvertes. Le Seigneur dira, si le monde vous hait, vous fait du mal, vous rejette, vous et sachez qu'il m'a haï avant vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur, serviteur, disciple, nous ne sommes pas mieux, plus grands que le maître s'ils m'ont persécuté. Et si vous voulez vraiment vivre une vie de disciple engagé, fidèle, radical, ils vous persécuteront aussi. Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, à cause de votre amour, de votre espérance, de votre foi en mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne reconnaissent pas celui qui m'a envoyé. Mais le Seigneur nous encourage à ne pas craindre, ne craignez pas ceux qui peuvent vous faire du mal de votre vivant, ceux qui sont là dans l'opposition, dans la moquerie, dans la critique, dans le rejet. Et je le répète encore aujourd'hui, des millions de nos frères et sœurs en Christ vivent cela, hein. Mis à l'écart de leur famille, de leur travail ou du point d'eau du village, tant et tant de brimades, de choses, de persécutions. Ne craignez pas ceux qui peuvent vous faire du mal de votre vivant, là, dans cette période des deux traits rouges, qui peuvent tuer, c'est vrai, le corps. Ah, ce sont des mots tellement difficiles. Mais qui ne peuvent tuer l'âme, qui n'ont pas d'impact sur votre foi, votre être intérieur, votre espérance, mais craignez plutôt, ayez une crainte respectueuse, un profond respect pour celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Soyez fidèles dans les intentions, les projets, l'appel que l'Éternel a pour vous, parce qu'il désire l'éternité pour vous. en plus. Reconnaissons que nous vivons dans une société qui n'aime pas avoir mal, qui n'aime pas la souffrance, qui n'aime pas, qui repousse ses limites là, de la souffrance, de la douleur, de la mort. Le rapport que nous avons, nous, dans nos sociétés modernes occidentales avec la souffrance, avec la mort, est très différent. En Afrique, dans la plupart des pays, dans la même cour où il y a quelques familles, mais chaque famille aura vécu un jeune enfant mort en bas âge, ou un accident de la route, ou une maladie incurable. Le rapport avec la souffrance, avec la mort n'est pas le même. Nous ne l'acceptons pas. On a peur de ça. Je lis, je pensais l'avoir marqué. Hébreux 11, verset 1er. Il est question, vous connaissez un peu ce passage, de Abel, le sacrifice qu'il a offert à Dieu, de Hénoc, qui a eu une vie agréable, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. C'est dans la foi qu'ils sont morts, sans avoir obtenu des choses promises. Les choses promises, et je rajoute, de leur vivant. De leur vivant, de leur petite période sur la terre, même s'ils ont vécu certains très longs, mais ils les ont vus par les yeux de la foi, ils ont vu la perspective d'éternité, ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, reconnaissant qu'il y avait une perspective d'éternité. Verset 35, Hébreux 11, ce passage-là, on ne l'aime pas. D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance, peut-être en reniant leur foi. Ce serait facile pour certains de dire « Ah, mais oui, je reste dans ma religion hindoue ou musulman ou autre », en reniant sa foi et en ayant à nouveau son travail ou en étant accueilli à nouveau dans la famille ou autre. D'autres n'ont point accepté de délivrance, de libération, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, lapidés, sciés, torturés. Ô Seigneur, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. On se dit, Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. On le comprend, de leur vivant. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur, pour eux, non. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, en étant témoin de leur persévérance, de leur ténacité, de leur radicalité, de leur obéissance jusqu'au boutiste, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Eux, ils y sont déjà, ils ont été fidèles jusqu'au bout. Et le Seigneur souhaite qu'on puisse considérer leur exemple pour que nous y parvenions nous aussi. Philippiens 3:20, notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mon troisième point, que nous puissions avoir une meilleure perspective, une meilleure considération de l'éternité et des choses qui durent, des choses qui ont une portée éternelle pour s'y consacrer, pour bien remplir notre vie. Notre temps, nos forces, nos compétences et ne pas gâcher notre existence. Que cela puisse honorer l'Éternel. Bien-aimés, je vous exhorte. C'est la version Darby, je trouve que le mot est fort. Comme forain. D'autres passages disent comme étranger, voyageur, de passage sur la terre, comme forain. Et on a une image de ce que sont les forains. Ils s'installent pour un temps. Mais ils savent très bien que ça ne va pas durer, qu'après ils vont partir et être ailleurs. Donc ici, tout est sujet pour leur mobilité. Leur mobilité, ils ne vont pas rester là, ils se projettent ailleurs. Puissions-nous être animés de cette même pensée, même si nous sommes sur la terre, même si nous devons garder les pieds sur terre, mais avoir les yeux fixés sur le fait qu'on bougera, qu'on n'est pas appelé à rester. Vous abstenir des convoitises charnelles, en fait de ce qui est terrestre, de toutes les sollicitations, de toutes les invitations à investir dans les choses terrestres, dans ce qui ne va pas durer, ce qui va être détruit. Et c'est tellement individualiste, tellement matérialiste, tellement consumériste. Vous voyez le nombre de publicités que l'on reçoit pour les téléphones, pour les voitures, pour les appareils électroménagers, pour les voyages, etc. Colossiens. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alors cherchez, soyez dans cette recherche. Ça veut dire des efforts, de la disposition. Ça veut dire de la discipline, recherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, que votre affection soit intentionnellement dirigée vers les choses célestes. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel qui durent. Pas de teigne, pas de rouille, pas d'incendie, pas de pluie torrentielle. Pas de coulée de boue, pas de fissures dues à la sécheresse qui font tomber une maison. Et puis on n'a plus rien parce qu'on avait placé toute notre espérance, tout notre travail, tout notre temps, tout notre investissement en cela. Alors où placer nos investissements? Où placer nos investissements? Vous dites, mais de toute façon, je n'ai pas d'argent. Non, mais toi, ta vie, notre temps, notre force, nos compétences, nos biens. Vous connaissez ce passage, je passe rapidement. La réponse que va donner le Seigneur alors qu'un homme lui dit « Mais je veux te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Et Jésus lui dira « C'est vrai, tu as raison, c'est un bon témoignage. Si, il vaut mieux que tu préserves tes relations avec la famille. » Non. Il lui dira, mais laisse ceux qui sont morts spirituellement et va t'occuper des choses célestes. Va investir dans des choses d'éternité. Nous voulons plein d'assurance dans nos sociétés modernes occidentales. On veut s'appuyer sur ça. On veut être sûr de ça. On veut maîtriser cela. Je vous invite à prier, à écouter. Zoé, est-ce que tu veux bien te mettre au piano? Ça va? Merci beaucoup. J'ai été plus long que d'habitude. Je vous invite à un temps d'écoute. Nous avons lu, Seigneur, ton désir, ton encouragement, ton interpellation à être vigilant. Ne pas nous attacher aux choses de la terre qui passent, qui vont être perdues, mais à considérer la perspective d'éternité. À savoir nous amasser des choses, investir dans des choses qui ont une portée d'éternité. Que ce soit investir un petit peu de temps dans la visite d'une jeune femme seule dans le voisinage. Ça peut avoir une perspective d'éternité. Pour vous les jeunes qui vous posez la question de la suite de vos études, d'un emploi, alors invitez le Seigneur à vous montrer quel chemin, dans quoi investir vos compétences, votre formation, votre temps. Peut-être au milieu de vous, certains ont le projet de changer de voiture. C'est un gros investissement, c'est un besoin. Présentez-le au Seigneur. Seigneur, voilà. Il y a ce besoin, mais qu'est-ce que toi tu désires? Dans quoi est-ce que tu souhaites que j'investisse? Peut-être des travaux importants, des investissements dans le logement, dans la maison ou autre, invitez le Seigneur à ce qu'il puisse vous parler, vous montrer, afin que même si on a les deux pieds sur terre, notre perspective, notre regard soit conduit par la vision d'éternité, par les choses qui perdurent, qui ont une portée éternelle, des fruits éternels à la gloire de Dieu. Dans un monde où des millions de personnes ne connaissent pas encore Jésus, n'ont pas entendu l'Évangile, n'ont pas la Bible dans leur propre langue, vivent avec un franc suisse par jour. Seigneur, montre-nous de quelle manière nous pouvons participer à ton royaume, à tes œuvres. Merci de ce que tu parles maintenant, dans les minutes, les heures, les semaines qui viennent, Seigneur, afin que tu sois honoré, réjoui de ces choix, de ces décisions, de ces prises de position pour les choses éternelles. Amen.